Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Les hypocrites écoutent mes sons, mais ils s'avèrent, ça les énerve, car ils veulent mon échec. Ils veulent mon échec, ça les énerve, car ils veulent mon échec. Je te raconte pourquoi j'ai ce côté solo, le pourquoi du comment, mon silence est si long.
Bonjour à tous, je suis Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de santé mentale. Je suis accompagnée de Tom, Flavia, Anaïs, Clémentine et Alice. La santé mentale, c'est un sujet très large qu'on a souvent tendance à réduire à simplement, entre guillemets, la dépression ou l'anxiété. Donc pour commencer, j'aimerais différencier troubles et maladies, car contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas la même chose. Donc en fait, pour faire une définition assez simple, une maladie, c'est un corps étranger qui vient dans notre corps, ça se soigne, après ça peut repartir. Donc par exemple, un rhume, bah on attrape un rhume, c'est pas dans notre corps de base, on soigne et après il part. Alors qu'un trouble, c'est le corps qui se modifie pour intégrer le trouble. Donc par exemple, le trouble anxieux, c'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est quelque chose, c'est un trouble qui arrive, le corps se modifie et c'est juste arrivé. Et par exemple, ça peut se traiter, mais du moment où on arrête les traitements, le trouble revient, ce qui n'est pas le cas pour le rhume. Donc maintenant que ça c'est fait, on va écouter Flavia qui va nous faire une chronique sur la société et après on fera un échange dessus.
Mon cœur est noir, c'est pas contre toi, les anciennes pages te retournent contre moi, tes mauvais plans contre moi, je les contrecarre. S'il y a des mauvaises ondes, normal que je m'écarte, tu fermes les yeux quand un crime te regarde, mais quand je râle, t'es à deux doigts du pétage de câble. Je suis méfiant, je mets plus les cartes sur la table pour éviter de faire des choix regrettables.
Dans l'éducation nationale, il y a certains aménagements qui ont été mis en place pour les personnes avec des troubles, comme des classes ou des aides pour les contrôles, par exemple. Mais c'est pas forcément normal. Ils n'ont pas les mêmes opportunités que les autres. Ils peuvent se sentir exclus. L'éducation nationale devrait savoir s'adapter à tout le monde et non pas aménager certaines classes pour certains élèves. Il y a tellement de pression sociale. Il y a 49% des élèves qui ont des troubles anxieux en France. Ça représente un adolescent sur quatre, ce qui n'est vraiment pas normal. C'est beaucoup trop de pression pour des élèves de leur âge. Dans le monde du travail, les personnes avec des troubles sont souvent exclues et sont souvent victimes d'inégalités. Même quand certains essayent de faire des films pour sensibiliser sur les troubles mentaux, ça ne représente vraiment pas le trouble. C'est exagéré et les personnes atteintes ne peuvent même pas regarder le film ou la série en question, comme le film que Sia a réalisé sur les troubles du neurodéveloppement autistique.
Bah merci Flavia pour cette chronique. Et Tom, je crois que tu voulais réagir à ce que vient de dire Flavia.
Ouais, du coup, tu parles du film Musique, c'est ça ?
Ouais.
Sia ?
Ouais, ouais.
Ouais, moi, je l'ai vu ce film et c'est vrai que je trouve ça vraiment hyper impressionnant à quel point on peut vouloir à ce point faire un film sur l'autisme et genre vraiment tout faire de travers. Déjà, elle représente qu'une seule facette de l'autisme, alors que c'est un spectre immense. Et elle prend vraiment le cliché qu'on a vu partout de l'autiste non-verbal qui parle avec ses mains, tout ça. Et elle a même pas pris une actrice autiste pour la jouer. Aussi, elle représente dans ce film, je sais pas si vous avez vu la scène, mais sans doute sur les réseaux tournés, ça c'était il y a un peu longtemps, mais elle représente une technique pour calmer les crises de l'autisme qui est hyper controversée. Donc c'est la technique de la pression. En gros, on s'appuie sur le corps de la personne pour bah, l'empêcher de respirer quelque part. Et bah, ça a déjà tué des gens. Et puis c'est hyper violent, en fait, comme manière de gérer une crise. Donc vraiment, montrer ça dans un film qui est censé sensibiliser, je sais pas si c'est une très bonne idée. Et aussi, dans ce film, y a des témoignages de personnes autistes qui l'ont vu et qui disent que c'est un supplice à regarder parce qu'il y a des lumières, des sons qui sont pas du tout agréables pour certaines personnes autistes. Donc ouais, c'est assez fou, je trouve.
En fait, ce que tu me dis, ça me fait un peu penser, c'est comme que les gens ont trop tendance à voir que, par exemple, on pense autiste et que du coup, autiste, c'est un mot, donc c'est une chose. Alors que en fait, c'est tellement plus vaste que ça. Je trouve ça un peu fou qu'il y ait aussi peu de représentation, alors que c'était le but du film à la base.
Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au dispositif dans les écoles pour les personnes qui sont considérées comme différentes. En fait, on met les gens dans des classes et on les catégorise comme à part. Et en fait, par exemple, chez les enfants, ils auraient peut-être pas remarqué par eux-mêmes qu'il y avait une différence, qu'il y avait, que l'autre enfant n'était pas pareil. Mais comme on va le mettre dans une autre classe, on va le mettre dans un autre dispositif, bah, en fait, on va créer une différence qui, en fait, plus tard, va se revoir chez les adultes, en fait, parce qu'ils ont été conditionnés dès l'enfance à repérer les différences chez les gens et à les considérer comme problématiques.
Oui, Anaïs.
Je trouve ça le pire dans ces dispositifs, c'est que souvent on dit que c'est pour la personne qu'on met à part, pour qu'ils aient des bonnes circonstances et tout, mais je sais que pour la plupart, c'est parce qu'ils ont des aménagements, par exemple avec des ordinateurs et tout, et c'est le fait qu'ils aient les ordinateurs qu'on les mette à part pour pas déranger les autres élèves qui sont sur des copies justement. C'est même pas pour eux et leurs besoins qu'on va les mettre à part, c'est pour pas déranger les autres élèves qu'on dit normaux, ce qui est encore plus aberrant.
Alice, tu voulais rebondir ?
Oui, bah en fait, depuis le lycée, j'ai un plan d'accompagnement personnalisé. Donc, j'ai un ordinateur, comme le disait Anaïs. Et en fait, c'était quelque chose qui était su par l'ensemble du corps enseignant. Et le corps enseignant, en fait, manquait cruellement de formation, en fait, sur ce sujet-là. Et de manière générale, le corps enseignant manque de renseignements, en fait, sur les élèves en général. En fait, quand un élève fait face à une difficulté, les enseignants sont jetés dans le vide, dans la gueule du lion, et ils n'ont aucun outil, aucune approche, et ça peut créer des traumatismes, en fait. J'ai une professeure qui m'infantilisait sans le savoir, elle me disait à la fin des contrôles « Vas-y, fais un coloriage, tiens, je te donne des feutres ». J'avais 17 ans, j'étais en terminale, c'était assez humiliant de passer comme ça devant ma classe, et je pense qu'ils m'ont un peu rejetée d'une certaine manière, sans le savoir, en fait.
Tom, je vois que ça te fait réagir.
Ouais, parce que je trouve ça fou que on parle, je parle au niveau politique de la santé mentale comme étant un sujet hyper important. Il faut en parler, il faut tout ça, mais on fait rien, on met rien en place au niveau de l'éducation nationale. Et après, c'est que selon moi, mais je pense que des classes à 30, c'est pas une bonne idée parce que forcément un enseignant, il peut pas s'attarder sur les problèmes de chaque 30 enfants. Alors que si on avait des classes plus petites où les enseignants étaient formés à prendre du temps, ce serait vraiment beaucoup plus simple et ce serait pas compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si on s'attarde sur chaque spécificité de chaque personne, on pourrait jamais avancer. Moi, je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est juste qu'il faut refondre tout le système scolaire et ça, c'est peut-être compliqué. Mais je pense que c'est possible.
Moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis, ça me fait un peu... Enfin, j'ai cette impression que tout ce qui est mis en place, par exemple les PAP, les PAI, tout ça, c'est un peu comme ce fait de le faire pour dire, bah voilà, on a mis des aménagements et maintenant, c'est plus notre dos. Enfin, on a
histoire de se dédouaner, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, histoire de se dédouaner, on a fait ce qu'il fallait pour au final que, en fait, on laisse ces élèves-là entre eux, ceux qui ont besoin d'accompagnement, alors que... Et on laisse... Et, enfin, pour que dans la classe, il n'y ait que des personnes... qui sont bonnes pour le système. Et Flavia, tu voulais réagir aussi ?
Du coup, c'est bon, c'est ce que Tom il allait dire. Donc.
Est-ce que quelqu'un a d'autres remarques, choses à apporter ? Tom, pardon. Vas-y. Non, vas-y.
Non, c'est juste pour revenir sur ce que tu venais de dire, je trouvais ça intéressant. Il y a une sorte de forme de tri, en fait, des élèves.
Ouais, c'est ça.
Ok, on va prendre ceux qui sont bien pour notre système. On va prendre ceux qui sont bien pour notre système et puis les autres, on va voir ce qu'on fait avec eux. Mais ouais, c'est vraiment un tri pour... on va former les meilleurs, l'élite en fait. En quelque sorte, on va former l'élite et puis ceux qui ont des difficultés, on les réapatriera dans des classes spécialisées, on les réapatriera. Et au final, à force de faire tout ça, ça va forcément créer des inégalités plus tard au niveau du travail par exemple. Enfin, t'en parlais dans la chronique. Là, on a parlé que de l'école, mais il y a aussi après, au niveau du travail, où ça peut être hyper compliqué.
En fait, on catégorise pour faire... Enfin, l'école est pensée juste, je trouve, pour un seul type d'élève. Mais en fait, je suis même pas sûre que ce type d'élève, il existe. Enfin, je connais aucun enfant de 11 ans ou même de... Enfin, moi, j'ai des cousins, tout ça, qui me disent « Ah ouais, franchement, rester en cours de 8h à midi, puis après de 13h à 17h, c'est super, j'adore. Enfin, » je crois que ça plaît à personne, ça convient à personne. Et le système est très mal pensé pour ça. Ouais, Flavia ?
C'est comme l'éducation. Ils sont tous là en mode « Oui, vous inquiétez pas, on peut accueillir vos enfants, il n'y a pas de souci. » L'école, elle est préparée et au final, quand l'enfant il arrive, il n'y a rien qui va. L'école, elle n'est pas du tout adaptée pour pour ces enfants-là. Et ils sont juste là aux parents. « Ah bah désolé madame, mais c'est trop compliqué, on ne peut pas le gérer. »
Alice, tu voulais rebondir ?
En fait, est-ce qu'au final, la vraie question, ce ne serait pas est-ce que l'école est prête pour les enfants ? Est-ce que ce système, cette façon de faire, de demander aux enfants de venir de 8h à 16h à la primaire, puis de 8h jusqu'à 18h parfois, selon le super plan de Gabriel Attal, est-ce que c'est ça dont ont besoin les enfants ? Est-ce que c'est fait pour eux d'être assis toute une journée en classe ? Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin ? Un enfant, quand tu lui demandes son moment préféré à l'école, c'est la récréation en général qui va te dire. Hein. Ce n'est pas le cours spécifique qui lui plaît. Donc, c'est peut-être ça la vraie question au final.
Flavia, ça te fait réagir ?
Ouais, bah, c'est par rapport à ça. C'est assez difficile et ce serait super compliqué. Mais je pense qu'il faudrait tout remodifier, tout recommencer depuis le début sur les écoles pour bien pouvoir adapter. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Lucie, bah, c'est vraiment fait pour un seul type d'élèves. Et il faudrait vraiment tout repenser les écoles, quoi.
Anaïs ?
Je pense pas vraiment que ce soit question d'adaptation de l'école, c'est juste qu'il faudrait que ça soit pensé de façon à inclure tout le monde avec comme il est.
Oui, voilà, c'était ça que je voulais dire.
Penser pour les enfants et pas pour les futurs adultes qui vont devenir.
Oui, ça considère l'enfant comme un enfant et pas comme un adulte en devenir.
Oui, oui.
Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, des réactions ?
Non, c'est bon pour moi.
Ok. Merci à tous pour cet échange. Donc maintenant, on va prendre une autre forme. Donc là, on parle de ça, de tous nos avis. Maintenant, on va parler un peu plus concret. Et on va écouter Tom et Clémentine qui vont nous livrer leur témoignage, leur parcours sur la santé mentale.
Je te le dis clairement que mon cœur est dans le mode Bresson. Est-ce que ça va changer? Peu importe la saison, y'a des actions qui m'ont fait perdre la raison. En conclusion, j'ai pété les plombs, peu de nouvelles de toi. Mais dans ma tête, tu as ce même teint. Dans mes pensées noires, dans la lumière éteinte. Je ne sais pas si je suis atteint. Je pensais à toi et tu pensais à moi.
Alors, du coup, moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de un petit peu mon parcours lié à la santé mentale et mon rapport au diagnostic. Aujourd'hui, j'ai bientôt 21 ans et en fait, j'ai senti vers l'âge de 14 ans qu'il y avait un mal-être en moi. Et en fait, je me sentais pas bien et c'était assez souvent, c'était assez intense. Et à ce moment-là, j'ai senti le besoin de voir un psychologue. Depuis, en tout, j'ai dû voir peut-être 7 psychologues différents, 4 psychiatres différents. Et ça paraît pas aberrant comme ça, comme chiffre, mais sur une période de temps de 6 ans, en fait, c'est assez... C'est nombreux parce qu'en fait ça peut pas assurer un suivi continu et en fait du coup j'ai été dans des CMP, des centres médico-psychologiques, j'ai été dans des unités pour adolescents, j'ai même fait rapidement un séjour en hôpital psychiatrique et pourtant même après toutes ces années, tous ces types de suivis différents, on n'a pas pu m'aider à mettre des mots sur ce que je ressentais. Il y a eu des tentatives, hein. On m'a parlé de dépression, on m'a parlé de TDAH, on m'a parlé de bipolarité. Mais il y a personne qui a vraiment tenté en fait, de poser un diagnostic officiel malgré mes nombreuses demandes. On m'a redirigée vers des professionnels qui eux-mêmes m'ont redirigée vers d'autres professionnels. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun diagnostic qui est posé. On m'a dit de ne pas chercher à m'enfermer dans une case. Pour moi, l'idée, c'est pas de m'enfermer dans une case, c'est de pouvoir nommer ce que je ressens et de comprendre un peu de quoi ça découle. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que sans diagnostic, on n'est pas forcément pris au sérieux quand on va mal. On nous dit que ça va passer, on nous dit qu'on va bien, mais on reconnaît pas forcément notre souffrance. Par exemple, on m'a donné des médicaments pour traiter un mal-être sur lequel on n'a pas su poser des mots. Et alors personnellement, les médicaments, ça m'aide vraiment, mais sans une thérapie adaptée, ça sert à rien. Et rien qu'en racontant ça, en fait, j'ai un peu l'impression de tout dramatiser, que c'est pas si important, mais en fait, quand on est face à des professionnels qui nous invalident, c'est dur de se rendre compte que ce qu'on vit, ça mérite d'être pris en compte. Et aujourd'hui, je suis avec une psychologue qui s'intéresse vraiment à m'aider à comprendre ce que je ressens, et ça fait du bien parce que j'ai enfin l'impression d'être sur la piste d'un diagnostic qui me permettra de trouver les clés d'aller mieux.
Ça me fait réagir ce que tu dis, parce que moi, j'ai eu la chance, déjà, d'avoir un diagnostic. Parce que aussi, je pense que tu peux être d'accord avec moi, mais c'est pas simple. Au niveau financier déjà, parce que quand des séances elles coûtent entre 60 et 120 euros, bah, c'est pas forcément facile de se trouver un psychologue, un psychiatre pour en parler. On nous dit oui, il faut que vous alliez consulter, il faut parler, il faut voir des psychologues, mais il n'y a pas forcément l'argent, quoi. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cet argent et de pouvoir avoir un suivi. Mais même comme ça a mis vraiment énormément de temps avant de me faire diagnostiquer. Donc moi, mon diagnostic, c'est un trouble de la personnalité borderline. Et avant que je sache ça, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, enfin genre qui allait pas, qui était différent chez moi. Et je ne savais pas ce que c'était. J'avais plusieurs options parce que j'ai vécu des trucs très difficiles dans ma vie, mais j'avais l'impression que ça venait aussi de avant. Enfin, j'étais un peu perdue. Et du coup, je me demandais si c'était pas un TDAH, un trouble du spectre autistique ou du coup le trouble de la personnalité borderline, parce que c'est ce que des gens me disaient, ça doit être ça. J'avais des amis qui étaient touchés, qui avaient un TSA ou qui avaient un TDAH et qui me disaient oui, c'est peut-être ça, ça ressemble à ce que j'ai. Pareil pour le trouble de la personnalité borderline. Et du coup, quand j'ai eu mes rendez-vous, qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver les bons professionnels pour avoir ce diagnostic, donc j'ai été voir un neuropsychologue. J'avais peur que le diagnostic qui tombe, ce soit le trouble de la personnalité borderline. J'avais peur parce que dans la société, je me disais, à tort sûrement, que le trouble de la personnalité borderline, ça fait un peu plus peur. Ça fait vraiment la personne qui gère pas ses émotions, qui peut pas être en couple, enfin, tout ce qu'on peut entendre, quoi. Et j'avais l'impression que, évidemment, pour un TDAH et un trouble du spectre autistique, c'est pareil, il y a tout un lot de clichés. Mais j'avais l'impression de me dire, ok, si je suis autiste, ça veut dire que je suis née comme ça. Ça veut dire que tous mes problèmes, ils sont liés à moi, c'est ma naissance. Alors que le trouble de la personnalité borderline, il est très souvent lié à un trauma. Et j'avais pas envie de me dire, ok, mon trauma définit comment je réagis aujourd'hui. Je me disais, attends, ça veut dire que là, tout ce que je le vis parce que j'ai eu un trauma. Et ça me faisait chier. Ça me faisait chier. Et du coup, quand j'ai eu mon résultat, qu'on m'a dit, oui, c'est en particulier le trouble borderline qui te handicape le plus dans la vie, j'étais pas très bien. J'avoue que j'étais un peu touchée par ça. Et puis, j'ai aussi un TDAH, donc ça, j'étais rassurée. Mais ça m'a mis du temps avant d'accepter le fait que le trouble borderline, bah, il faisait partie de ma vie. Mais aujourd'hui, ça fait partie de moi. Et il y a des gens qui vont dire, oui, tu fais qu'en parler, tout ça. Mais en même temps, bah, c'est une partie de moi, en fait. Et je peux pas vraiment le cacher parce que ça sert à rien. Les gens, ils le verront, en fait. Si je le dis pas, ils le verront.
Et justement, par rapport au diagnostic, est-ce que toi, t'as senti que, comme certains professionnels peuvent le dire, que ça t'enfermait dans une case? Ou est-ce que toi, ça t'a permis de mettre des mots sur ce que tu ressentais, de comprendre un petit peu ce qui se passait en toi, quoi?
Bah, c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que justement, j'ai énormément de professionnels, même des proches à moi, qui me disaient « Non, mais moi, j'aime pas les diagnostics, parce qu'après, tu t'enfermes dans une case, tu te trouves des problèmes, tout ça. » Et je trouve ça un peu bête comme phrase, parce qu'en fait, on est forcément dans une case. Dans la société dans laquelle on vit, on est forcément dans une case, en fait. Donc de dire oui, tu vas t'enfermer dans une case, c'est faux. Parce que je le suis déjà, parce que je me pose des questions, parce qu'il y a des gens qui me disent que je suis ça, d'autres qui me disent que je suis ci. Donc dans tous les cas, je suis dans une case. Et du coup, au contraire, ça rassure de savoir ce qu'on a exactement. Parce qu'on sait comment s'en sortir, enfin on sait comment vivre avec, en fait. Par exemple, oui, je vais chez le docteur et je veux savoir pourquoi mon dos il est pas droit. Bah, le docteur il va me dire oui, t'as une scoliose. Je préfère qu'il me dise ça plutôt qu'il me dise je sais pas. Et tu refermes pas dans une case, c'est pas grave, tu peux vivre avec ton dos pas droit. Ok, mais j'aimerais bien savoir exactement ce qui cause ça. Et c'est pour ça que ça m'aide aussi au niveau... vu que je sais ce que j'ai entre les trois diagnostics que je pensais avoir, parce que c'est pas pareil, c'est pas la même manière de me gérer, enfin de me gérer, c'est pas vraiment le mot, mais de prendre soin de moi en quelque sorte. C'est pas la même manière du tout. Genre, après, ça dépend aussi des gens, mais en fonction du trouble borderline et en fonction du trouble du spectre autistique, c'est pas du tout les mêmes méthodes que je vais mettre en place, quoi. C'est pas du tout pareil, et du coup, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là.
Y a quelque chose qui m'est revenu en tête pendant que tu parlais, c'est que souvent, quand j'ai été face à des professionnels, ils m'expliquaient que bah, de par l'âge que j'avais, du fait que j'étais encore adolescente, etc., c'était compliqué de poser un diagnostic parce que l'adolescence fait que, etc. Je voulais savoir si c'est des choses qu'on a pu te dire aussi, et comment tu l'as vécu à ce moment-là.
Ouais, c'est vraiment un truc qu'on m'a dit aussi. Et on m'a dit, oui, t'es trop jeune. C'est souvent un truc qu'on dit pour les personnes qui sont atteintes du trouble borderline. On leur dit souvent que c'est l'adolescence, parce que forcément, à l'adolescence, bah, y a toutes les hormones, et du coup, on peut avoir des émotions un peu fortes, tout ça. Mais ouais, c'est souvent un truc qu'on leur dit, faut voir plus tard. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est un trouble qui met en danger les personnes. Donc moi, j'aimerais bien savoir ce que j'ai, parce qu'il y a des fois où j'aurais pu mourir, en fait. Et du coup, qu'on me dise que c'est l'adolescence, ah, c'est bon, ça va deux minutes. Et puis aussi, moi, on m'a dit, c'est les règles, faut que tu prennes de la pilule. Sauf qu'au bout d'un moment, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre un truc où on connaît très bien la liste d'effets secondaires de la pilule pour régler mes problèmes ? Enfin, je pense pas. Et surtout que je pense que dans la plupart des pilules, il y a l'effet secondaire dépression. Donc je vais éviter de prendre un truc qui va me rendre encore plus mal. Enfin voilà. Mais du coup, c'était justement la question que je voulais te poser. My bad.
Ok, ok. Bah moi, la pilule, moi, ça me fait penser même à tout ce qui concerne les médicaments qu'on peut nous prescrire, par exemple tout ce qui est antidépresseur, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal d'effets secondaires, et en fait moi ce qui m'a souvent surprise, c'est qu'on me prescrive ces médicaments sans avoir un diagnostic clair, en se disant bah écoute, on va voir si ça marche. Mais enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait ça peut pas marcher sans une bonne thérapie derrière. Et c'est aussi quelque chose qui me faisait réagir. Est-ce que toi c'est quelque chose que t'as pu ressentir aussi ou pas?
Ouais, et moi surtout, j'ai eu ma première psychiatre, je l'avais trouvée en urgence parce que j'avais des problèmes au niveau de la scolarité, et donc j'avais besoin de mots, de psychiatre, tout ça. Et la première psychiatre, elle m'avait surdosé plein de médicaments, et du coup c'était assez dangereux pour moi, parce que des fois j'ai pris des doses qui n'étaient vraiment pas prescrites pour moi, parce qu'elle m'avait prescrit des doses énormes, et puis quand je lui disais « oui, le médicament que vous m'avez donné, il me fatigue », elle m'a dit « ah oui, mais... c'est fou, pourquoi je t'ai prescrit ça? Normalement, je prescris ça à des gros gaillards. » Et j'étais en mode, je sais pas, c'est toi la psychiatre. Enfin, voilà.
Ok, ok.
Donc maintenant, on va écouter le témoignage d'Alice, qui va également nous parler de son parcours qui est bien propre à elle.
Bon, du coup, je vais continuer sur la ligne du diagnostic. Donc, il y a 4 ou 5 ans, j'ai été diagnostiquée du trouble du déficit de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsion. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas dans le nom, mais ça en fait partie. Donc, le TDAH, qu'est-ce que c'est? C'est de la perte. Vraiment de la perte sur plein de points. Bah, déjà, dans un premier temps, perte financière. Hein. J'ai dû en avoir pour au moins 1000 balles de pertes d'objets particulièrement précieux, de cartes Navigo, de gourdes, hein, de casques. de casques très spécifiques qui me coupent du monde quand je sors dans la rue. Problème de relations sociales. Bah oui, on perd en confiance parce qu'on oublie tout. On oublie de venir, on organise plein de choses en même temps, et du coup on ne peut pas se dupliquer, hein. C'est physiquement pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait c'est très compliqué, et on oublie aussi de venir travailler. Donc c'est difficile de perdre la confiance de la personne qui nous emploie, parce qu'on oublie de venir, parce qu'on oublie nos horaires, parce qu'on confond, et qu'on prévoit d'autres choses en même temps. Donc heureusement j'ai un capital sympathie incroyable. Donc je crois que je me suis rachetée, mais en faisant du babysitting avec ses enfants. Mais bon, c'est quand même assez complexe. Et de manière générale, c'est le chaos. Hein. Franchement, l'organisation globale, c'est le chaos total dans ma tête. Il y a trop d'informations, trop de choses que je dois faire. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à faire le tri. Je vis dans un chaos constant, mais je crois que c'est un petit peu mon confort. Je parlerai rapidement de l'école, puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais en fait, quand on a un trouble de l'attention et l'hyperactivité, notamment quand on est jeune, c'est impossible de tenir en cours. On ne peut pas tenir en place. On n'est pas fait, de toute manière, physiquement, nous les humains, en dehors du TDAH, pour tenir et pour être assis derrière une table pendant des heures. Mais là, quand on a des problèmes d'attention et d'hyperactivité, en fait, ça va juste... créer du rejet par le corps professionnel, par les enseignants et par nous, par les autres enfants. Donc c'est un rythme épuisant, et j'avoue que moi c'est quelque chose, enfin le trouble de l'attention, je sais que c'est quelque chose qui me fatigue tout particulièrement, et je dois compenser ça avec du café. Enfin c'est assez classique, mais on est quand même susceptible de tomber dans des addictions, parce qu'on fait toujours tout dans l'excès. Quand on a une passion, on la fait à fond. Et ça marche aussi pour les addictions alimentaires, alcool, drogue. Donc c'est assez complexe. Et Bon, je vais en parler rapidement, il y a quand même des effets parfois positifs. Par exemple, l'hyperfixation, où on est totalement passionné par un sujet. Je pourrais vous parler de train, mais on va éviter parce que c'est pas le moment. Mais bon, chaque chose en son temps, mais on est passionné, on a parfois une passion très spécifique. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions.
Bah, je rebondis sur ce que tu dis en disant que c'est vrai que ça, même ça se ressent au quotidien le TDAH, parce que j'ai pas d'exemple précis, mais le nombre de fois où je t'ai demandé quelque chose et tu m'as répondu ah non j'ai oublié, c'est quelque chose qui est revenu souvent, donc ça me montre aussi que c'est assez, enfin que ça handicap le quotidien quoi, c'est pas juste banal. Et Anaïs, tu voulais...
Dans le même état d'esprit, pour avoir déjà travaillé avec toi en groupe de nombreuses fois, il y a une fois avant d'aller manger, je t'ai rappelé qu'on devait aller travailler ensemble. Je t'ai envoyé des messages, beaucoup de messages, je t'ai appelé. T'es revenu en classe en me disant « Ah oui, c'est vrai, on devait travailler ensemble. » Donc, tout à fait normal. On a recalé une date. Avant de manger, je t'ai prévenu. Je t'ai renvoyé des messages et tout, et j'ai dû passer par d'autres camarades de classe pour te prévenir. Mais bien que t'oublies des fois, on te connaît, on sait comment tu fonctionnes, et donc on te pardonne et on décale juste après, ce qui est tout à fait naturel et humain.
Flavia aussi, tu veux dire quelque chose ?
Dans le même esprit par rapport aux oublis, là on parle d'oubli matériel, combien de fois sur le groupe de classe t'envoies des messages « Oh j'ai perdu mon gilet, oh j'ai perdu ça, est-ce que vous l'auriez pas vu ?» Mais comme Anaïs l'a dit, il n'y a vraiment pas de jugement, genre c'est juste plus drôle qu'autre chose.
C'est un running gag.
Tom, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais dire tout ça parce qu'on n'est pas là en fait à t'acculer, c'est surtout pour montrer que c'est hyper humain.
Ouais.
En fait, c'est hyper humain et que on va pas en mourir. C'est pas parce que tu vas perdre ton gilet qu'on va en mourir. Et il y a des côtés handicapants, mais ouais, on va pas en mourir. Et il y a pas à t'en vouloir. Il faut juste que les gens soient sensibilisés parce que ça peut arriver à tout le monde. On peut toujours rencontrer une personne TDAH ou l'être nous-mêmes. Et donc c'est important de savoir ce que c'est, ouais. Au moins.
Clémentine, tu voulais réagir aussi?
Ouais, moi je me demandais, Alice, t'as parlé du coup des difficultés que tu rencontrais au quotidien. Je me demandais si t'avais des petites méthodes pour essayer de pallier à ces difficultés.
Oui, j'ai plusieurs outils. Alors bah déjà, dans un premier temps, j'en parle aux gens. En fait, je leur dis avant. Au fait, j'ai des problèmes d'attention, d'hyperactivité et d'impulsivité, donc je vais avoir des comportements très spécifiques. Et enfin, faut pas m'en vouloir, c'est quelque chose qui est pas de mon ressort. Les gens de la classe savent que j'oublie mes affaires, les gens de la classe savent que j'ai des difficultés à m'organiser, et le corps enseignant sait que je tiens pas en place et que c'est pas genre de leur faute, qu'ils m'intéressent pas, c'est juste que mon temps d'attention, c'est celui d'un poisson rouge. J'ai ça. Ensuite, bah de manière générale. J'utilise des outils, par exemple actuellement j'ai une petite balle dans la main pour éviter d'être trop hyperactive parce que c'est long, une heure assis, donc j'utilise des petits outils pour m'occuper en attendant. J'essaye d'utiliser un emploi du temps, mais c'est très complexe de l'utiliser au quotidien, et surtout en fait j'ai une routine très spécifique, très particulière, que je suis minute par minute chaque jour, parce que sinon c'est le chaos total si je la suis pas quoi, j'oublie tout, j'oublie même de brosser les dents ou d'aller aux toilettes.
Par rapport à ça, tu vis toute seule actuellement, t'es en appart étudiant, quand t'as emménagé, est-ce que t'avais peur de vivre toute seule
Attendez, juste, merci Flavia pour ta question, je précise juste que c'est toi qui parlais pour l'auditeur, les auditeurs.
Alors, pour...
ça m'a perturbée. Je sais plus ce que je disais, c'était quoi la question ?
Est-ce que tu avais peur d'emménager toute seule dans ton appart étudiant ?
Alors en fait, vivre seule, quand on a... Enfin, à mes yeux, c'était la liberté, le bonheur ultime, parce que je suis maître de tout ce qui m'entoure. Je suis maître de mon appartement, je suis maître d'où est-ce que je mets mes affaires, de comment je m'organise, de comment je fais les choses. Et s'il y a un problème, c'est de ma responsabilité et c'est pas celle d'un corps extérieur. Donc je m'organise toute seule, et si jamais je veux faire quelque chose d'imprévu, j'ai pas à prévenir qui que ce soit, je me gère solo. Et je peux faire tout ce qui va dans l'impulsivité, c'est-à-dire des choses sur un coup de tête, partir au fin fond du Val d'Oise ou plein de choses inattendues que je peux faire seule, sans avoir quiconque à prévenir, quoi.
Anaïs, je crois que tu voulais poser une question.
Oui, moi, ça va être un peu hors de ton TDAH, mais qui est aussi en lien. Est-ce que dans ta vie quotidienne, il y a des sens, des perceptions chez toi qui sont un peu plus présentes ou pas, ou comment tu ressens les choses de ce point de vue-là?
Alors en fait, il faut savoir que dans un premier temps, on connaît les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Mais en fait, les cinq sens, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Il y en a plus d'une dizaine. Il y a le rapport à la chaleur, est-ce qu'on a chaud, est-ce qu'on a froid, à quel point on le ressent. Le rapport à l'audition, à quel point on entend fort un bruit ou on l'entend moins, à quel point on le perçoit. Il y a aussi le rapport au corps extérieur, par exemple un meuble, à quel point on comprend, notre corps comprend sa proximité avec le meuble. Est-ce qu'on va se le manger ou est-ce qu'on va l'esquiver ? Le rapport au visuel, est-ce qu'une lumière spécifique, ça va nous éblouir ou est-ce qu'au contraire, on va avoir des problèmes de vision ? Mais c'est pas une question de myopie ou quoi, c'est vraiment une question de sensibilité, de la sensibilité du corps. Et chez les personnes, notamment autistes, en fait, c'est comme si en fait, les sens, c'était le volume de votre téléphone. En général, quand on écoute de la musique, on met la musique au milieu, on met pas trop fort, mais on met pas non plus rien, sinon on n'entend pas. Et en fait, chez les personnes autistes ou neuroatypiques, en fait, le son va être beaucoup trop fort ou pas assez, mais de façon non libérale, on va pas le choisir en fait. Ça va être comme ça, le son va être à fond et on n'y peut rien et on n'a pas le choix en fait. Et on doit s'adapter en conséquence. Donc par exemple, moi je sais que mon son, il est à fond sur Louis. Je suis particulièrement sensible au bruit extérieur. Et je sais que, par exemple, j'ai perdu mon casque il y a deux jours, je l'ai oublié. Je ne pouvais pas sortir dehors, je faisais crise d'angoisse en partant de chez moi parce que je me disais, mais comment je vais faire pour marcher dans la rue avec les voitures qui passent, avec les passants, comment je vais faire? Donc c'est assez handicapant. J'ai également mon rapport thermique qui est assez particulier. Je suis pas frileuse du tout. Je suis tout le temps en crop top, même en hiver. J'ai pas de manteau et je n'en veux pas parce que je l'aurai toujours sous le bras et ce sera encombrant. Des questions.
Oui, Tom, je crois que tu as une question.
Oui, moi, c'est pas une question. J'ai un truc. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on trouve ça dans d'autres troubles. Au niveau des sens, et c'est super intéressant. Par exemple, je sais que pour le PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, qui est un des syndromes dans l'anxiété, on a aussi cette notion du bruit qui est un peu altérée, où je sais que c'est des personnes qui vont avoir tendance à ne pas apprécier les bruits forts, parce qu'en fait ils vont se projeter et se dire bruit fort est égal danger. Et du coup, il y a des bruits que les gens vont pas trouver forts, mais que eux vont trouver forts, et ça va les angoisser. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'aborder le trouble par les sens, parce que c'est vraiment un truc qui est hyper, hyper propre à chacun, mais qui a des similarités dans certains troubles. Et voilà, je trouvais ça très intéressant.
Clémentine, tu veux rebondir ?
Ouais, je voulais réagir sur ce que tu disais, Tom. Par exemple, en situation de stress intense ou par exemple pendant des crises d'angoisse, les sens peuvent aussi être très exacerbés. Et en fait, les lumières sont trop fortes, les bruits sont trop forts. Et il y a même en thérapie, justement, lors de crises d'angoisse, on donne par exemple des tips aux patients de dire 5 choses qu'ils voient, 4 choses qu'ils sentent, 3 choses qu'ils entendent. Et en fait, c'est des techniques un peu pour essayer de se refocus sur les sens sans être submergé par eux. Et je trouve ça super intéressant, justement, d'aborder, comme tu as dit, le trouble par les sens.
Je veux juste rebondir sur ce que tu disais, je te donne la parole, Tom. C'est que, enfin, je me reconnais un peu dans ce que tu dis parce que moi aussi je fais de l'anxiété, très certainement en tout cas. Et en fait, je ressens un peu cette histoire de sens, mais avec les bruits. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut apparaître à n'importe quel moment, qu'il y a beaucoup trop de bruit autour de moi ou beaucoup trop de personnes. Et que, du coup, il faut que je me concentre très très fort pour faire abstraction de ça parce que sinon je pense que je paniquerais. Donc voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très présent et en plus, chez moi, ça peut débarquer n'importe comment, donc, enfin n'importe quand plutôt. Donc, il faut que j'y sois plutôt préparée. Et Tom, tu voulais rebondir.
Oui, je voulais dire que en fait, c'est super intéressant qu'on en parle parce que c'est vraiment une notion dont on entend très peu parler, en fait. Surtout par rapport au TDAH et aux troubles du spectre autistique, parce que c'est une des particularités, justement, des troubles neuroatypiques. C'est un truc dont on n'entend jamais parler. On parle tout le temps on parle très souvent du lien avec les autres, et on parle très peu, en fait, du lien avec soi-même. Donc comment est-ce qu'on vit les choses et comment est-ce qu'on peut vivre certains signaux sonores, visuels, chauds, froids, différemment, et comment ça peut être hyper handicapant. Parce que je pense qu'Alice, tu pourras me corriger si c'est faux, mais tu ressens pas le froid, c'est sûr, mais la maladie, je pense que tu la ressens. Donc
ouais,
le rhume, il peut arriver vite.
Oui, j'ai souvent le rhume, j'ai souvent la goutonnée, j'ai toujours du Stérimar chez moi en stock et de la lysopamine. J'ai souvent mal à la gorge. Et j'aimerais aussi rajouter un truc, en fait, je viens de m'en rappeler, alors que ça m'a quand même handicapée pendant au moins 18 ou 19 ans de ma vie. C'est le goût. J'ai enfin, on va dire que mon son est à fond, ou non, ou très, très bas, dans le sens où... Je ne peux rien manger de nouveau. Ça, c'est totalement dû au TDAH. En fait, ma perception avec le goût est hyper complexe et j'ai un blocage total avec l'alimentation. Donc, depuis ma naissance, je refuse de manger ce qui est nouveau. Ça commence à se débloquer petit à petit. J'ai mangé mon premier sandwich il y a 2 semaines. Je suis assez fière de moi. Et c'est pareil pour la mayonnaise. Donc, voilà, j'ai mangé ça il y a 2 semaines aussi. Pas mal. J'aime bien. Donc voilà, mais assez complexe de vivre avec tout ça et beaucoup de choses à la fois.
Est-ce que quelqu'un avait d'autres réactions, remarques, questions, ce qui vous passe par la tête ? Non ?
Pas pour moi.
Eh bien, merci, on va s'arrêter là sur cette partie, sur les sens, la perception, tout ça. Et on va passer à un autre témoignage d'Anaïs, bien différent, qui va aussi nous raconter son parcours.
C'est vraiment réel ce que je ressens. Pour moi on se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Je t'ai trouvé et je veux qu'on termine ensemble. Est-ce qu'entre nous c'est réciproque? Il me semble, mes propos prennent du sens. Cependant, est-ce que tu ressens? J'ai pas le temps de faire perdre du temps.
Oui, alors moi je vais vous parler de l'anxiété généralisée que j'ai en moi et ce qui me bloque ou fait face dans mes relations avec les autres. Donc dans mes relations avec les autres, déjà j'ai toujours peur de mal faire ce que je fais, et donc pour pallier à ça, je prévois tout. Tout ce qui est possible de prévoir dans mon quotidien, dans mes interactions, et tout ce qui m'engendre beaucoup de stress. Et donc quand je suis entourée d'autres personnes, ça peut être très très fatigant le long de la journée à vouloir tout contrôler, tout prévoir, ou tout ce qui est imprévu, car on ne peut pas prévoir ce que les autres vont faire. Donc à la fin de la journée de cours ou de la semaine, j'ai qu'une seule envie, c'est de ne plus avoir d'interaction avec les autres et d'être chez moi, sauf que bah, j'ai envie de voir mes amis le week-end que je ne vois pas souvent en semaine, parce qu'ils ne sont pas dans la formation avec moi. Ce qui fait que, bien que je n'ai plus d'énergie, je sors quand même avec eux. Donc voilà. Et quand j'atteins mes limites, parce que j'ai vraiment plus d'énergie à force de la semaine, ça devient très compliqué et je ne suis plus vraiment présente avec eux. Vraiment, j'ai une absence totale avec mes amis. Ça m'arrive aussi les matins où j'arrive en cours où je suis extrêmement fatiguée. Et donc, je vais me mettre de côté moi-même parce que je n'arrive plus à suivre les conversations qui se passent autour de moi ou tout ce qui peut être dit ou ce qui peut se passer. Et je dis juste par réflexe que je suis fatiguée sans en dire plus. Donc, les gens ne comprennent pas trop souvent pourquoi d'un coup, je disparais un peu de la salle. Pas physiquement, mais plutôt mentalement. Et je reste avec eux pour profiter malgré ce que je peux ressentir.
Mais du coup, si je comprends bien, tu vas un peu, entre guillemets, au-delà de tes limites, enfin, tu as conscience de tes limites, mais comme tu veux voir des gens, tu les franchis, et est-ce que des fois, ça craque, enfin, comment est-ce que tu gères ça de...
Déjà, pour essayer de gérer mon quotidien, j'ai appris par des connaissances et tout, la technique de la cuillère, des cuillères plutôt. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, en début de journée, on a 10 cuillères à notre disposition. Et selon les interactions qu'on va avoir ou les actions qui peuvent se passer dans ta journée, tu vas pouvoir perdre ou gagner des cuillères, selon ce qui te fait du bien ou ce qui peut te faire du mal, entre guillemets. Mais donc, moi, le vendredi soir, donc après une semaine de cours complète, souvent, il me reste entre 2 et 3 cuillères. Ça dépend vraiment des semaines et tout. Des fois, je peux en avoir plus, des fois, je peux en avoir beaucoup moins. Et selon ça, je vais quand même sortir. Et sauf que quand je vais plus avoir de cuillère, je vais revenir sur les sens. Je vais devenir plus sensible à tout ce qui va m'entourer. Au bruit, aux lumières.
Par exemple, je lui ai dit avant que j'avais du mal à suivre les conversations avec mes amis, elle devenait brouillon pour moi. Bah, s'il y a du son ou du bruit autour, ça va devenir encore plus compliqué, ça va encore plus me fatiguer que ce que je suis déjà. Et ça peut me créer des crises d'angoisse ou de l'hypersensibilité. Des fois aussi, ça engendre vraiment et mes émotions seront décuplées. Par exemple, un rien va me mettre en colère et je vais le montrer très fortement. Enfin, je vais démarrer au quart de coup de tour. Alors qu'à l'inverse, on va me dire un truc et je vais le prendre à cœur et je vais me mettre à pleurer sans signification. Je vais parler de mes sentiments et je vais me mettre à pleurer sans signification précise juste parce que bah, j'ai plus rien pour me contrôler et me retenir.
Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux ce que tu décris, c'est ça ou...
Ouais, un peu.
Et est-ce que tu arrives à mettre en place des stratégies, que ce soit, je sais pas moi, de rester chez toi ou dans ton comportement, à adopter des stratégies pour essayer de limiter, entre guillemets, au maximum ton épuisement?
Alors, généralement, je devrais, mais je ne le fais pas par envie de sortir parce que bah, j'angoisse de faire des choses, pas appropriées envers mes amis. Mais j'angoisse aussi quand je ne suis pas avec eux parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, je préfère me sacrifier en sortant plutôt que de rester chez moi à me reposer. Mais en effet, aujourd'hui, j'ai un recul sur mes réactions et ma fatigue. Et quand j'ai plus d'énergie, déjà le matin en arrivant en cours ou que j'ai totalement fatigué, souvent déjà, je ne parle pas trop. Donc, je préviens tous mes camarades que bah, là, aujourd'hui, c'est une journée qui va être un peu dure, que je ne serai pas trop là mentalement. Donc, je mets au courant les gens qui m'entourent. Et après, il y a aussi, par exemple, ce week-end, il y a 3 sorties qui sont prévues dans mon week-end. Le vendredi soir, le samedi soir et un repas de famille dimanche. Je sais que je suis incapable, dans l'état de fatigue actuel, de faire les 3. Donc, il va falloir que j'en enlève un ou deux. J'ai réussi à négocier pour que vendredi soir, je reste chez moi à me reposer. Et que samedi, je sorte le soir, que la journée, je reste tranquille. Et dimanche, repas de famille, j'ai dit « Ok, j'y vais, mais je rentre pas tard ». Donc, c'est des petites stratégies pour sélectionner ce qui est possible ou pas de faire, ce que je peux éviter de faire ou que je suis obligée de faire, et de vraiment essayer de contrôler les choses. Enfin, pour moi, c'est ma technique. Contrôler et se dire là, ça sera trop, il faudra que je rentre, ou là et tout. Mais généralement, le week-end, je fais tout mon week-end tranquille. Enfin, tranquille en sortant avec mes amis. Et pour reprendre la semaine, je recommence avec que la moitié de mes cuillères, au mieux d'être reposée et recommencer avec tout, quoi.
Et est-ce qu'au niveau de ton entourage, tu sens que les gens le ressentent ou même, enfin, est-ce qu'ils mettent en place, eux, des stratégies pour essayer de... Enfin, je veux dire, veiller à ton bien-être, mais en vrai, enfin, ils ne peuvent pas trop savoir. Enfin, est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de ton entourage?
Ouais, bah déjà, autour de mes camarades de classe, comme on peut le voir ici, on est très ouverts d'esprit et on fait attention aux uns aux autres. Donc, ça va plutôt quand je suis à l'école. Dans mon cercle d'amis proches, ils ont voulu s'adapter à moi de façon qui ne m'ont pas forcément plu. J'ai des amis qui ne me proposaient même plus de sortir quand je leur disais dans la journée ou dans la semaine que j'avais été un peu fatiguée. Ils faisaient le choix de ne pas me prévenir qu'ils sortaient pour pas que j'aille à faire ce choix de sortir ou éviter que je sorte alors que je suis fatiguée, ce qui part d'une très bonne intention, mais ça m'enlève le choix à moi de savoir si j'ai envie de sortir ou pas, ce qui ne me plaisait pas trop. Et une autre stratégie qu'on m'a sortie il n'y a pas très longtemps, c'est de ne pas me dire les choses. Genre, dans le sens que, parce que ma santé mentale est un peu fragile et compliquée, le fait de ne pas me dire les choses pour éviter que j'aie des réactions un peu excessives ou que ça puisse me faire du mal ou me mettre dans un état qui ne serait pas très bonne à réceptionner. J'ai expliqué à ces personnes que c'était plutôt l'inverse qu'il fallait faire, que je les mette au courant des réactions que je pouvais avoir, que ça va me mettre peut-être pas bien pendant quelques minutes, quelques heures et tout, mais que c'est pas la peine de m'infantiliser, que je suis assez grande pour comprendre et que je pourrais prendre le recul après sur la situation. Et comment veulent-ils que je prenne en compte ce que moi je fais mal envers eux ou ce qu'ils peuvent ressentir s'ils m'en parlent pas, en fait, tout simplement.
En fait, tu préfères qu'on te laisse décider, enfin qu'on te dise les choses, parce que sinon, c'est ça qui... Est-ce que c'est aussi peut-être ça qui te génère plus d'anxiété? Est-ce qu'on te dit pas, du coup, t'as peur qu'on te dise pas les choses?
Ça peut rentrer en compte, mais par exemple, récemment, on m'a dit les choses, on m'a juste dit que j'avais dit des choses déplacées envers une personne, sans m'en dire plus. Dans ce cas-là, ça m'a beaucoup angoissée parce que bah, j'ai pas eu les réponses à ma question et moi je me suis dit, ok, j'ai fait n'importe quoi, j'ai totalement raté, quoi. Vraiment, grosse source d'anxiété pour moi. Et en fait, après, on est revenu sur la conversation avec cette personne et non, c'était juste des petites trucs déplacées par-ci par-là, mais pas très grave. Et cette personne qui avait ressenti ça de ma part, elle s'est excusée, elle a dit « Bon, bah, on verra la prochaine fois, ça se passera sûrement très très bien. »
Genre, j'ai réagi un peu à l'excès sur le coup, mais après discussion, ça a été. Mais on me dit, oui, t'as dit ça, Anaïs. Par exemple, en classe, un jour, j'ai sorti une référence en plein milieu d'un exposé. Ça se fait pas. On me l'a dit après coup. Je me suis dit, oui, bah ça se fait pas. Ok, j'ai compris. Et je l'ai mis de côté et je le refais plus maintenant.
Ok, oui, en fait, parce que là, dans l'exemple que tu donnes, j'ai l'impression qu'on a voulu t'en dire, mais pour pas te stresser, on t'a pas dit ce que c'était, mais en fait, ça a eu l'effet inverse, vu que t'as pas su.
Ouais, un peu. En fait, la personne s'est pas vraiment rendu compte qu'elle avait lâché que la moitié des informations, mais oui, ça a été plus angoissant de juste me dire ça plutôt que me dire la totalité des choses et que la personne en face m'en voulait pas du tout d'avoir eu ces propos-là, surtout.
Ok, c'est tout ou rien, quoi, c'est mieux ouais. Que le milieu.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bah merci Anaïs pour ton témoignage. Du coup, on va passer maintenant à une deuxième chronique, une chronique point histoire. Et après, pareil, on aura un petit échange là-dessus. Donc voilà.
Le syndrome d'Asperger que vous portez, Anne-Claire, concerne environ 30 000 personnes. C'est une forme d'autisme dans laquelle les malades sont dotés d'une intelligence hors norme.
Bon, alors merci Thierry pour cette petite intervention. Du coup, on ne dit pas malade, hein, pour parler d'autisme, s'il te plaît. On parle d'un trouble, du coup, quelque chose qui ne se soigne pas, on ne guérit pas de l'autisme, on vit avec. Et quant au terme Asperger, on va revenir dessus. Alors, il faut savoir que Asperger, ça tient son nom de son chercheur, comme la plupart des noms en général, Hans Asperger. Alors, qui était Hans Asperger ? Eh bien, en fait, c'était un héros après la Seconde Guerre mondiale qui avait sauvé des enfants autistes du génocide. Alors, bon, ça, c'est la version qu'on préférait voir, puisqu'en 1980, on a aussi découvert qu'au profit du sauvetage de jeunes autistes Asperger, il avait envoyé les enfants autistes déficients au four. Parce qu'en fait, selon Hans, il y a les bons autistes et les mauvais autistes. Un bon autiste est acceptable socialement et a un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Un mauvais autiste n'est pas acceptable socialement et a un QI moyen ou voire en dessous de la moyenne. Donc, ceux qui ne correspondent pas aux critères, voilà, vont dans les fours. Merci Hans. Du coup, on ne dit pas Asperger et on ne compare pas des personnes autistes entre elles. Il n'y a pas de bons ou de mauvais autistes. On ne dit pas « Oh, t'as de la chance d'avoir un enfant autiste Asperger ». On ne dit pas ça, s'il vous plaît. En fait, on ne compare pas de base les gens entre eux. Hein, ça va falloir arrêter. Mais surtout, on ne compare pas des personnes atteintes d'un trouble mental entre eux. Ça ne se fait pas, s'il vous plaît. Donc voilà, on dit trouble du spectre autistique, ça fait quand même depuis 1980 que ça a été découvert quand Asperger avait participé au génocide, donc ça va faire 45 ans, s'il vous plaît les médias arrêtez, on n'en peut plus. Et je vais continuer sur ma voie avec le terme hystérie, hystérie qui vient du grec hystéron, qui signifie utérus. Donc jusqu'à la découverte de Freud, une recherche très poussée, vous allez voir, on résumait les femmes hystériques à des femmes en souffrance physique. Donc tu es une femme en souffrance physique, tu es hystérique, bah meurs. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas t'apporter de soins, t'es juste hystérique. Voilà, donc ensuite, avec Freud, on a découvert que l'hystérie, en fait, c'était dû à un traumatisme sexuel. Donc, comment guérir face à un traumatisme sexuel quand on est une femme on t'interne en psychiatrie, tout simplement. Donc, si jamais tu as des sauts d'humeur, si jamais tu as des difficultés, si jamais tu sors du cadre, eh bien, on t'interne, voilà, parce que tu as des traumas sexuels. Et c'est tout. Tu es une femme, hein, n'oublie pas. Donc, on ne dit pas hystérique, puisque c'est vraiment un terme fourre-tout pour résumer tous les problèmes que les femmes clament haut et fort depuis des centaines, des milliers d'années. Et en fait, ça a retardé les recherches sur la santé des femmes pendant des années. Donc maintenant, on va peut-être parler éventuellement du trouble histrionique, même si ça n'a pas trop de grand rapport et qui n'est pas un trouble spécifique pour les femmes. Hein, ça n'existe pas, les troubles ne sont pas genrés, n'importe qui peut avoir des troubles. Le trouble histrionique, c'est un trouble où la personne va être en situation de mal-être, va avoir besoin d'attention pour conforter sa confiance en soi, donc c'est une personne en souffrance, qui va avoir des comportements à risque, abus d'alcool, de drogue pour obtenir de l'attention. C'est une personne qui va ressentir du mal-être quand elle ne va pas être au centre de l'attention. Et c'est un trouble qui a du mal à trouver des solutions et des origines. C'est encore très, très recherché. Donc voilà, c'était le petit point histoire sur les mots qu'on ne dit plus. Hein, ni Asperger, ni maladie, ni hystérie.
Bah, merci Alice de nous rappeler tout ça. Je pense que ça fait de mal à personne d'avoir une petite dose de rappel. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup réagir. Donc Clémentine, je te laisse prendre la parole.
Moi, je voulais réagir notamment quand tu as parlé de l'autisme et d'Asperger. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'entendais encore parler d'autisme léger, d'autisme sévère. Et en fait, c'est là que la notion du trouble du spectre autistique est super, super importante et nécessaire, parce qu'on parle vraiment d'un spectre et pas en fait d'une ligne droite qui va du léger au sévère. En fait, c'est un spectre avec autant de manifestations qu'il y a de personnes atteintes du trouble de spectre autistique. Et je trouvais ça important d'en parler, parce que on utilise encore ces termes qui sont très discriminants.
Flavia, je crois que tu voulais réagir aussi à la chronique. Je me suis trompée alors. Tom, tu voulais réagir, pardon.
Ouais, bah déjà c'était super intéressant, merci beaucoup. Et oui, je voulais revenir sur l'hystérie, parce que je trouve ça fou qu'encore à une époque qui n'est pas si lointaine que ça, quand une femme exprimait la moindre émotion, on la considérait comme malade, donc hystérique. Et la solution pour ça, c'était l'internement. Et on pourrait se dire l'internement, c'est une manière de la soigner, qu'elle aille mieux. Mais en fait, c'était pas ça du tout. L'internement, c'était une manière de l'isoler, parce qu'en fait, elle faisait tâche au sein du foyer. Et on pourrait se dire, ok, c'est une époque révolue, mais aujourd'hui, on peut se poser la question de quand une personne va dans une clinique psychiatrique, peu importe la raison, est-ce que ça l'aide vraiment ? On voit plein de témoignages de gens que ça aide pas du tout et que ça peut même aggraver leur cas. Et on se demande en fait si on les envoie là-bas, est-ce que c'est pas finalement pour les cacher en fait, les éloigner du foyer pour pas qu'ils fassent tâche aux yeux de la société.
Anaïs, tu voulais réagir aussi ?
Oui, déjà ce que tu viens de dire, Tom, ça me fait aussi penser à ce qu'on a parlé en tout début de podcast sur les fois où on envoyait les élèves dans les autres classes pour les contrôles ou autres, pour un peu les mettre de côté, les dissimuler et tout, ça me renvoie à ça. Et aussi au terme hystérique qu'on utilise dans le langage courant pour quand une personne est un peu trop énergique ou laisse trop voir ses émotions, on dit qu'elle est hystérique. Et il y a d'autres termes comme ça que nous utilisons à tort et à travers, comme pour dire que aux gens quand elles changent un peu d'humeur, qu'ils sont bipolaires, ou dès que ça a un petit coup de mou, qu'ils sont dépressifs et tout, ça renvoie à toutes ces choses-là et ces mots utilisés un peu au hasard dans notre société actuelle.
Alice, tu voulais réagir?
Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment un terme me fourre-tout et qui était considéré, en fait, l'hystérie à une époque comme la maladie des humeurs, en fait. C'est, t'es malade d'exprimer tes émotions. Et je pense que malgré tout, ça en dit quand même beaucoup sur notre société aujourd'hui.
Flavia ?
Ça revient un peu à ce que Anaïs et Alice viennent de dire. C'est vraiment, les gens utilisent certains mots à tort et à travers. C'est par exemple l'hystérie, c'est dès qu'une personne... va être, comme Anaïs l'a dit, un peu trop énergique, c'est tout de suite « Ah, c'est vraiment une hystérique, celle-là ». En fait, les gens cherchent même pas à comprendre le sens du mot ou à savoir ce que ça veut réellement dire. C'est juste qu'ils ont entendu ce mot-là et ils se disent « Bah, vas-y, je vais l'utiliser comme ça
». Moi, je me permets juste de rebondir. Je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé sur l'importance des mots. Par exemple, Asperger, je pense qu'il y a tellement de gens qui ne le savent pas et qui ne l'emploient même pas à mal. Juste, ils ne savent pas que ça ne se dit pas parce que ça... fait référence à quelqu'un de nazi. Donc, du coup, je trouve ça un peu ouf que même dans les médias, on entende quelqu'un qui a quand même qui a de l'influence, quoi, dire des choses comme ça. Donc, forcément, on va pas se remettre en question. Et comme j'ai oublié la suite, Alice, je te laisse parler.
En fait, comme tu disais, Flavia, on cherche pas à savoir ce que c'est. On dit l'hystérie directe sans chercher à savoir ce qu'est l'hystérie, mais on cherche pas non plus à savoir ce qui cause le mal-être de la personne. Parce que si une personne exprime ses émotions, c'est qu'il y a... c'est bien d'exprimer vos émotions, continuez. Mais si jamais la personne va mal et en souffrance, au lieu de dire ça et de mettre ça directement sur le dos de l'hystérie, cherchez à savoir ce qu'il y a derrière et avoir des échanges humains plutôt que de casser directement la personne en lui mettant l'étiquette hystérique et c'est tout.
Flavia ?
C'est par rapport à ce que tu disais, Lucie, sur l'autisme. C'est par exemple les gens, quand ils vont savoir qu'une personne est autiste, elle va directement se dire oh, c'est comme une enfant, tu vois. Genre, ils ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs formes d'autisme et ils réduisent vraiment les autistes à un seul type d'autisme, ceux qui sont un peu enfantins, et ils ne cherchent même pas à savoir vraiment ce que c'est. Ils prennent ce qu'eux, ils ont entendu une fois et ils ne se renseignent pas plus que ça.
Tom, tu voulais réagir aussi ?
Moi, c'était sur ce qui avait été dit avant, sur ne pas prendre en compte le ressenti de la personne. Parce que je trouve que peut-être que dans notre société, on manque un peu d'empathie en général. Et je pense que c'est dû à notre société. Hein. Je ne rejette pas la faute sur les individus. Mais on a tendance à décrier les actions des gens. Par exemple, on parlait du trouble histrionique. Une personne qui va... faire quelque chose de par exemple qui va se mutiler devant les autres, et on va dire mais allez, ça va pas du tout, genre ça se fait pas de faire ça. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a des gens, ils ont quelque chose en eux qui fait qu'ils n'ont pas le choix de ne pas faire ça, en fait. Et c'est intéressant aussi de se projeter et de se dire la personne a fait ça, d'accord, peut-être que vous trouvez ça mal, mais pourquoi elle l'a fait et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider.
Ali, je crois que tu voulais réagir et après on passera aux recommandations.
Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi pour le coup. C'est, en général, on s'arrête à ce que la personne renvoie et pas à ce que pourquoi la personne elle renvoie ça, en fait. Et je pense qu'aussi, surtout, on manque de représentation, de sensibilisation. On s'arrête à des stéréotypes, à ce que les personnes renvoient. Et justement, on ne va pas au-delà. Pourquoi est-ce qu'ils nous renvoient ça, en fait ? Et je pense que même dans les médias, sur les réseaux, on manque parfois de représentation de personnes concernées et on donne la parole à ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est peut-être ça qui manque.
Merci à tous pour... merci Ali déjà d'abord pour ta chronique et à tous pour l'échange qu'on a eu. Donc on va passer aux recommandations. On a une petite liste, donc je vais commencer à vous parler de Vice Versa et particulièrement Vice Versa 2, qui est un dessin animé Pixar. Enfin, je pense que pas mal de gens le connaissent, que je trouve absolument excellent. Les émotions sont représentées, donc je vous invite vraiment à aller le voir, en particulier le 2, parce que y a l'anxiété présente dans le 2, ce qui n'est pas le cas dans le 1. Donc voilà. Et Anaïs aussi, une recommandation.
Moi, je vais plutôt vous parler d'une lecture d'un manga plus spécifiquement qui s'appelle Clown Doctor, qui est édité par Tsunaka. Désolée pour la prononciation. Et les scénarios ont été faits par Kori et Feng Shi. Donc c'est vraiment un manga qui parle de l'animation dans les hôpitaux et qui montre l'impact que ça a d'avoir, sur la santé mentale, d'avoir du bien-être, une activité, quelque chose qui sort du quotidien, qui l'impact en fait que ça a sur la santé, enfin le fait d'avoir une bonne santé mentale, sur la guérison après. Et je trouvais ça plutôt cool comme façon de voir les choses.
Tom.
Ouais, bah du coup on parlait de représentation et moi ce que je vais vous recommander, du coup ça rentre parfaitement dedans. Donc c'est une série qui s'appelle Mental, qui est une série de France Télévisions et qui est disponible sur Netflix. Et en gros, dans cette série, on suit des jeunes qui sont atteints de différents troubles et qui sont dans une clinique psychiatrique. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils le vivent chacun différemment. Il y en a qui sont dans un déni complet, il y en a qui le vivent très bien et qu'au final, on se rend compte que c'est pas le cas. Et du coup, je vous recommande vraiment cette série parce qu'on voit l'humain derrière. On voit plus le terme de la maladie sans comprendre. On voit vraiment... ce qui se passe vraiment pour eux.
Tu en es où, là, de tes hallucinations? Tu revois Idriss, parfois?
Non, non, ça, c'est... C'est fini, ça.
D'accord. Parce qu'il faut le dire, hein, si jamais ça revient.
Oh, putain, ça revient. Ouh, ça revient.
Oh, non, ça
revient. Ça revient, ça revient.
Flavia, t'avais aussi une recommandation à nous faire, je crois.
Ouais, moi, c'est le film Black Swan. Ça parle d'une fille qui veut auditionner pour jouer Black Swan, donc le cygne noir dans le spectacle de classique Le Lac des Cygnes. Et du coup, c'est une fille qui est vraiment obsédée par ce rôle, qui veut absolument pouvoir jouer Black Swan. Et ça montre la pression sociale qu'elle reçoit. Et on voit sa mère qui essaye de l'aider, mais elle le fait d'une façon très mal. Et du coup, ça l'oppresse encore plus. Et à un moment, elle est tellement obsédée par ça qu'elle a même l'impression de devenir elle-même un cygne noir.
Personne n'en a après toi.
Est-ce possible de me croire ?
Madouce. Qu'est-il arrivé à Madouce ? Elle est partie !
Ben, on va conclure ce podcast. Donc, merci déjà à tout le monde, Anaïs, Clémentine, Alice, Flavia, Tom, d'avoir échangé, qu'on ait échangé tous ensemble. Merci pour toutes vos chroniques, qui étaient très intéressantes, tous vos témoignages, toutes ces recommandations.
Et donc, merci voilà. À toi.
Merci.
Merci. Merci.
Et j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura apporté des choses. Voilà, merci beaucoup.
Les hypocrites écoutent mes sons, mais ils s'inversent, ça les énerve, car ils veulent mon échec. L'échec, ils veulent mon échec, ça les énerve, car ils veulent mon échec. Je te raconte pourquoi j'ai ce côté solo, le pourquoi du comment, mon silence est si long.
Mon Paris est fait.